Bonjour et bienvenue sur le podcast OREMA, le podcast des mères entrepreneurs multiculturelles, maman d'ici et d'ailleurs, maman mais pas que. Je suis Lauriane, maman de deux garçons, experte en stratégie de contenu et email marketing et fondatrice de la communauté des mères entrepreneurs OREMA. Ma mission, c'est d'aider les mères et les femmes qui entreprennent à créer du lien avec leur audience grâce à une communication authentique. Ici, on parle donc d'entrepreneuriat, de communication, mais aussi de parentalité et de transmission. Parce que nous sommes des femmes complètes qui voulons une vie de famille comblée et une vie professionnelle épanouissante et valorisante. Si aujourd'hui tu peux écouter ce podcast, c'est grâce à la communauté OREMA, un espace positif à destination des mères entrepreneurs, mêlant le réseau professionnel et la communauté d'entraide. Alors rejoins-nous et sors de la solitude de l'entrepreneur, en te rendant sur orema.fr/communauté. Pour ne manquer aucun épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Maman, entrepreneur, femme, sœur, fille, you name it. Avec toutes les casquettes que tu peux bien porter, je suis sûre que tu as déjà ressenti cette impression de ne jamais avoir assez de 24 heures dans une journée pour accomplir tout ce que tu as à faire. Dans cet épisode, il y aura donc sans aucun doute des clés pour toi. Elles nous sont partagées par Victoria, experte en gestion du temps, dans la mission est d'aider les dirigeants d'entreprise à optimiser leur quotidien. J'ai eu le plaisir de me connecter avec cette maman de deux petites filles passionnée par son métier grâce à LinkedIn. Elle préside actuellement un réseau d'affaires et de networking et elle est particulièrement douée dans la mise en relation des entrepreneurs entre eux. Je te laisse avec le parcours de Victoria et ses stratégies pour une gestion du temps optimale. Bonjour Victoria.
Salut Lauriane.
Comment vas-tu?
Très bien. Et toi?
Ça va, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir.
Alors Victoria, alors moi je te connais, mais il y a des personnes qui nous écoutent qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu veux bien te présenter pour elles?
Bah écoute, me présenter, ben moi c'est Victoria et je suis spécialisée dans la gestion du temps pour les dirigeants d'entreprise.
Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu qui tu es, nous en dire un petit peu plus sur toi, qui tu es et qu'est-ce qui fait que tu fais aujourd'hui ton activité?
Alors, qui je suis? Je suis une femme, maman de deux petites filles, passionnée par mon métier qui permet d'aider les chefs d'entreprise à optimiser leur temps, être efficace et pourquoi aujourd'hui je propose des formations aux dirigeants d'entreprise, tout simplement parce que c'est ma personnalité, c'est naturel. Aujourd'hui, je suis une personne qui a toujours été très efficace, très straight to the point et c'est donc aujourd'hui ce que je propose aux dirigeants d'entreprise pour les aider à développer leur activité professionnelle tout en gardant un équilibre personnel et professionnel.
Oui, ce fameux équilibre qui est d'ailleurs très recherché par les auditrices du podcast. Qu'est-ce que tu as fait comme étude, comme parcours pour pouvoir proposer cet accompagnement là aujourd'hui?
Alors moi, j'ai fait beaucoup d'études. J'ai commencé par l'école des dirigeants et créateurs d'entreprises. C'est une école à Paris dans laquelle tu es formé pour monter ta société. Ensuite, je suis partie à Milan à la Creative Academy. C'est une école qui t'aide à développer ta créativité et dans le domaine particulièrement du luxe, hein, puisque c'est l'école du groupe Richemont. Et ensuite, j'ai fait différentes d'autres formations comme l'école supérieure de coaching, donc pour être coach certifié RNCP, mais aussi formations en yoga au Népal, mais aussi des formations en nutrition, puisque je suis une grande sportive, ça fait plus de 20 ans que je fais des arts martiaux. Donc des arts martiaux, j'ai commencé par l'aïkido, le jujitsu, la boxe française en compétition et c'est une de mes plus grandes passions. Voilà, et aujourd'hui ce que je propose à mes clients, c'est vraiment toute cette expérience, ce que j'ai appris principalement sur le terrain, puisque j'ai commencé en Allemagne, à monter un cabinet de conseil en ingénierie. C'est ma première expérience professionnelle. Et puis ensuite, après, je suis retournée à Paris et ensuite à Lille. Et là, aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans que j'ai monté ma société.
Tu parles combien de langues?
Comment tu sais? Non, écoute, je parle français, j'ai des origines italiennes, donc évidemment, je parle italien, enfin, sicilien. Oui, italien, anglais, allemand, espagnol, voilà.
Waouh, c'est super. Et est-ce que quand tu étais... Enfin, c'était comment quand tu étais petite, en fait? Est-ce que tu savais déjà que tu aimerais travailler dans tout ce qui est un peu organisation? Est-ce que tu imaginais ça? Ou est-ce que, voilà, tu imaginais autre chose quand tu étais plus petite, puis quand tu étais ado, qu'est-ce que tu aimais? Et est-ce que ça a un lien avec ce que tu fais aujourd'hui?
Quand j'étais petite, je voulais être professeure des écoles. J'adorais jouer à la maîtresse avec tous mes frères et sœurs. Nous, on est 4 enfants. Et je voulais aussi être prof de sport. Donc, en fait, ça se lie pas mal, puisqu'aujourd'hui, je continue à faire quand même pas mal de sport, qui fait partie pleinement de mon activité professionnelle, hein. On en parlait tout à l'heure, puisque j'inclus des sessions de sport dans mon agenda pour le respecter. Sinon, ce n'est pas respecté. C'est aussi un des conseils que je propose aux entrepreneurs. Donc, non, je voulais être professeure des écoles et je suis très contente parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais finalement. Donc, j'accompagne, je fais des formations avec des dirigeants d'entreprises pour les aider à optimiser leur temps et être plus efficaces.
Oui, c'est vrai que du coup,
Ah oui.
dans formation, il y a tout le côté pédagogique, puisque tu es donc formatrice certifiée Calliope. Donc, il y a quand même des exigences à respecter pour que ce soit vraiment des formations suivies et qui apportent vraiment des résultats. Alors, tu as dit que tu étais maman. Quels sont comment dire, les valeurs que t'ont transmises tes parents et que tu as envie à ton tour de transmettre à tes enfants? Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui?
Bah, j'aimerais leur transmettre qu'aujourd'hui, en fait, il y a pas de barrière à se fixer. On peut tout faire si on se donne les moyens. Je pense qu'on m'a vraiment transmis la détermination. Donc, il faut être déterminé. Pour cela, tu as un objectif et tu te donnes les moyens pour l'atteindre. Et une des valeurs, c'est aussi l'amour, parce qu'en fait, l'amour, je considère que c'est fondamental pour se sentir bien en équilibre et épanoui.
C'est vrai. Est-ce que tu es une maman cool? Parce que du coup, comme tu es une maman très organisée, est-ce que tu es une maman cool? Ou bien tu restes une maman, voilà, une maman organisée. Tu es une maman cool ou voilà.
Alors moi, je sais pas ce que c'est qu'être une maman cool, mais en effet, en fait, c'est-à-dire que chacun éduque ses enfants comme il l'entend, donc il y a pas de modèle. Moi, je pense que je sais pas, on va dire que oui, en effet, si tu veux, j'anticipe pas mal. Donc par exemple pour les repas, avoir des repas déjà tout faits, ou alors j'organise mon agenda aussi pour avoir des temps de travail, aller chercher les enfants plus tôt en fonction des priorités, des urgences, etc. Je te donne un exemple. Hier, j'étais très contente de pouvoir aller chercher une de mes filles plus tôt, c'est-à-dire vers. J'ai dû arrêter de travailler vers 15h pour partir à 15h30 parce que je devais l'emmener chez le médecin. Et donc, j'étais très contente de pouvoir gérer mes priorités, savoir le faire, comment faire en début de journée, parce que je savais que j'avais ce timing à respecter. Et donc, j'ai fait plus que je n'avais à faire, en fait, hein, en une journée. Voilà, mais non, en fait, je peux pas te dire si je suis maman cool ou pas. Je pense que je suis maman comme une autre, finalement, et très à l'écoute, surtout, de mes enfants.
C'est super important. Donc, ce que tu gardes, donc des valeurs que tes parents t'ont inculquées, voilà, c'est la détermination et c'est aussi l'amour, ce qui est aussi très 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 important. Est-ce que ta culture a une place importante dans ta maison et ton quotidien? Et si oui, laquelle? Tu disais que tu as des origines italiennes.
Je suis d'origine italienne et vietnamienne.
D'accord.
Donc, en fait, la plus grande place dans ma culture, on va dire, c'est la nourriture.
Ah,
Non, j'adore manger. Donc, en fait, évidemment, beaucoup la nourriture italienne, mais aussi asiatique, hein. Donc, j'adore cuisiner aussi. Donc, ce sont des activités que je fais avec mes enfants aussi. Pas que, hein, mais j'adore. Donc, ça, effectivement, ça prend beaucoup de place. Parce que je mange beaucoup, méditerranéen et asiatique. Voilà.
d'accord. Super, ben ça c'est un... ça réunit tout le monde, hein, la nourriture, les bons plats, et c'est aussi ben finalement une bonne occasion de se retrouver en famille autour et entre amis autour de mon repas. Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un de féministe? C'est une question que j'aime bien poser et je suis toujours assez intéressée d'entendre les réponses, donc j'ai hâte de savoir ce que tu vas me dire là-dessus.
Tu penses que je me considère féministe ou pas? Tu pourrais le couper ça, mais
Ah oui, non,
tu veux.
non, je
Non,
ne
tu
sais
penses pas?
pas.
Ok.
Je veux que tu me
Ah,
dises.
je vois. Alors, la question, est-ce que je me considère féministe? Si tu veux, depuis le début de ma carrière professionnelle, je ne travaillais qu'avec des hommes. Donc, en fait, le métier de l'ingé, enfin, dans l'ingénierie d'affaires, il n'y a que des hommes. C'est-à-dire que, enfin, c'est très rare d'avoir des femmes. Et en fait, si tu veux, bah tout s'est toujours très très bien passé. Nous, on est quatre enfants, bon, c'est deux filles, deux garçons, donc c'est équité. Dans mes anciens métiers, j'ai toujours été très très à l'équilibre, que ce soit d'un point de vue professionnel, le métier, mais aussi la rémunération ou les projets. Enfin voilà. Non, aujourd'hui, je me considère pas du tout comme féministe. J'ai pas mal de copines qui le sont, mais moi non. En fait, aujourd'hui. Bah, je trouve mon équilibre, c'est OK. J'ai jamais de souci avec ça. Et aussi, c'est de l'acceptation. C'est-à-dire que parfois, il y a des disparités, mais dans les deux sens, en fait. Pas que d'un côté. Tu vois? Donc, non, non, pas du tout. Je me considère pas spécialement féministe.
D'accord, ok. Et donc, tu disais qu'au départ, tu étais dans un milieu professionnel, il y avait essentiellement des hommes. Mais est-ce que tu dirais que, en tant que femme qui a créé ton entreprise, voilà, au niveau de aussi bien des partenaires que des clients, etc., est-ce que tu as ressenti à un moment ou à un autre qu'il y avait une différence de traitement parce que tu étais une femme en affaires, avec éventuellement les clichés qu'il peut y avoir autour. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu as ressenti ou pas du tout?
Bah en fait tu vas rigoler parce que moi en fait le fait que je sois une femme entrepreneur ou même quand je travaille en Allemagne bah en fait je fais beaucoup plus de business. Tu rigoles,
C'est intéressant,
mais en
ouais.
fait en effet par exemple quand je travaille en Allemagne bah ouais réellement je pense que le fait d'accueillir une ingénieure d'affaires féminine qui parle allemand etc et ben en fait j'ai ouvert enfin j'ai eu la possibilité de rencontrer d'autres clients. Donc moi en Allemagne je travaille avec des clients comme Daimler, Porsche, c'est des bah, la capitale de l'automobile Stuttgart là où j'étais et donc ouais. Et sinon, là aujourd'hui, encore aujourd'hui, alors je pense que, en fait, tu peux pas le savoir, mais j'ai pas vu spécialement de différence par rapport à ça. Je pense que c'est, en fait, moi, je suis vraiment cool par rapport à ça. Tu vois, je veux dire, il y a pas de, je suis une femme, alors je suis mieux vue ou je suis moins bien vue. C'est vraiment, en fait, je suis une personne en fait avant d'être une femme ou un homme.
Oui.
et donc, en fait, à moi de déterminer, de transmettre ma passion pour aider les autres. Et avancer.
Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Et c'est vrai que je pose quand même la question parce que, tu vois, ben, on parlait de Radija tout à l'heure et l'épisode que j'ai enregistré avec elle qui était l'épisode qui est sorti ben, avant. Le tien, où voilà, elle parlait de son témoignage, de son quand elle est devenue maman, et eh bien qu'elle a ressenti justement qu'il a fallu choisir, enfin pas choisir, mais qu'en gros la société lui disait un petit peu tu choisis quoi, soit tu es femme au foyer à t'occuper de tes enfants, soit voilà. Après, elle a réussi à trouver son équilibre, mais voilà, c'est pour ça que je pose quand même la question, même si tout le monde, voilà, à chacune son expérience. Et c'est ça aussi qui est intéressant finalement de se voir que selon le domaine d'activité dans lequel on est, on peut avoir des différences ou pas parce qu'on est une femme ou pas, ou voilà, il y a des milieux où ça pèse et des milieux où ça pèse pas, et c'est tant mieux d'ailleurs. Alors tu es maman, oui, je le dis, je l'ai déjà, tu l'as dit, je l'ai dit, je le redis. Mais voilà,
T'insistes,
mais c'est parce que c'est en lien direct avec la question que je vais te poser après, et c'est aussi parce que la plupart des personnes qui écoutent le podcast sont aussi des mamans. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu arrives à atteindre, ou soit si tu arrives, et comment tu arrives à atteindre l'équilibre vie pro, vie familiale?
Alors, j'aimerais commencer par le fait que l'équilibre n'existe pas. C'est-à-dire que pour trouver ton équilibre pro et perso, il faut accepter le déséquilibre. Une fois que tu l'as compris, tout va bien. Donc, en fait, tout le monde est en équilibre, puisque tout le monde est en déséquilibre. En fait, c'est très simple. Il y a des moments où je vais être plus focus, travail. Donc, les enfants seront plus à la garderie ou j'irai chercher plus tard ou déposer plus tôt. Et il y a des moments où ce sera pas le pic de mon activité, auquel cas je passerai plus de temps avec les enfants. Et du coup, là, à ces moments-là, je passerai plus de temps, quitte à passer des après-midi avec, les chercher plus tôt, etc. Donc, tout est une question d'organisation. C'est mon métier, c'est ma passion. Mais l'équilibre, en fait, c'est dans la tête. C'est-à-dire que c'est à toi de comprendre que l'équilibre n'existe pas et que c'est du déséquilibre. Une fois que tu l'as accepté, c'est un travail d'acceptation. Eh bien, tout va bien. Tout va mieux.
D'accord. Donc, ce qu'on retient, surtout, ça va être l'organisation et l'acceptation.
Exactement. T'as très bien résumé.
Ça marche. Eh bien, merci pour cette présentation détaillée et d'avoir aussi partagé avec nous un petit peu comment tu t'organisais. Victoria, parlons organisation et gestion du temps. Il existe plusieurs techniques différentes. Bon, moi j'en connais quelques-unes, mais je les connais pas toutes. Là, je pense à Pomodoro, je pense aussi au time blocking. Et tout à l'heure, on en a évoqué une autre, celle du 80-20, je sais plus comment tu l'as appelée.
Oui, Pareto.
Voilà, Pareto, la loi de Pareto. Alors, est-ce que tu peux nous dire et qu'est-ce qu'il faut que nous on prenne en compte pour bien choisir notre méthode d'organisation?
Il faut simplement savoir que ta méthode, c'est pas celle d'une autre personne. Tu testes plusieurs méthodes et ensuite tu changes, tu modifies, tu t'adaptes. Et voilà. Donc, il y a des personnes qui sont plutôt du matin, des personnes qui sont plutôt de l'après-midi, d'autres du soir. Donc, à chacun de s'adapter et de trouver son moment le plus efficace.
D'accord. Et là, en fait, j'en ai cité quelques-unes. Et pour les personnes qui connaissent pas trop, est-ce que tu penses à d'autres méthodes?
Ah non, mais les méthodes en gestion du temps, t'en as des tonnes, hein. Je veux dire, il en existe autant que de personnes qui existent sur Terre, je pense. Non, mais t'en as plein. Ça dépend après si ce sont des problématiques de procrastination, de réalisation d'un travail difficile, long. Donc, t'en as plein. La méthode des 5 minutes, par exemple, tu mets 5 minutes pour te mettre au travail, sur une tâche que tu procrastines depuis très longtemps, par exemple, je sais pas, Eisenhower, je sais, non, tu l'as pas cité,
Non.
Eisenhower, une méthode très ancienne pour réussir à gérer tes priorités, différencier l'urgent de l'important, ça c'est hyper important. Toutes les méthodes, moi j'aime beaucoup de Brian Tracy, c'est un auteur que j'apprécie, qui donne énormément d'outils sur la procrastination, comme la méthode ABCDE, où tu vas classer tes tâches par ordre de priorité. Enfin voilà, bon, il y en
Oui,
a vraiment
il y en
plein.
a tout plein.
Ouais.
Et est-ce que toi tu crois au, enfin, ou est-ce que tu as pu constater tout ce qui est, je crois que le mot c'est chronotype, par rapport à, en fait, on se donne un animal, par rapport, si on est plus du matin ou plus du soir, ça te dit quelque chose? Et est-ce que tu penses que ça fonctionne vraiment?
Alors, l'animal, j'ai pas entendu parler.
On est un
Mais
ours
pardon.
ou un dauphin ou un loup, ça te
Ah
dit
ouais.
rien?
En fait, juste tout à l'heure, dans ta question,
Oui.
je te répondais qu'il fallait trouver son moment
Oui.
où tu étais le plus efficace. Donc, en effet, c'est vrai. Majoritairement, les personnes sont plus efficaces le matin. Donc, c'est pour ça que le matin, il est recommandé de plutôt, tu te lèves, on évite de tout de suite regarder le portable. Tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner, puis ensuite, tu vas travailler. Ou si tu es chez toi, tu t'adaptes à un environnement de travail efficace. Sinon, il existe des personnes aussi qui sont plutôt de l'après-midi ou du soir, mais c'est plus rare. Majoritairement, les personnes sont plus efficaces le matin. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de faire les tâches les plus qui te demandent le plus de concentration le matin. Comme ça, tu as l'impression d'avoir déjà fini ta journée à midi.
Ouais, ça me plaît bien comme type d'organisation. Et comment se fixer efficacement des objectifs? C'était le thème de notre atelier du jour, mais pour les personnes qui galèrent un petit peu avec le fait de bien se fixer des objectifs, est-ce que tu peux donner voilà quelques astuces comme ça pour les aider?
Alors c'est rigolo, on a fait un atelier juste tout à l'heure à la CCI où le thème était comment se fixer des objectifs en 2024. Eh bien, j'aimerais te répondre, La méthode, c'est de différencier l'objectif du rêve. Donc l'objectif, c'est quelque chose que tu aimerais atteindre avec une méthode SMART qu'on connaît peut-être ici. C'est une méthode très connue, donc je vais peut-être la détailler si tu le veux. SMART, donc S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste et T comme timé. Tu peux ajouter effectivement un E pour écologie. Donc en fait, à partir du moment où tu te fixes un objectif, essaie de déterminer si cet objectif est bien SMART. Le E est encore une fois optionnel, donc oui, tu le prends ou pas. Mais sinon, vraiment, le plus important, c'est de voir qu'il y a vraiment, tu sais à partir de quand tu as fini ton objectif, tu as atteint ton objectif. Tu sais, on parlait tout à l'heure de lecture, je veux avoir lu 6 livres en 6 mois. Donc, exemple d'un objectif SMART, je souhaite atteindre, mon objectif est de lire un livre par mois pendant ces 6 prochains mois. La liste de ces livres sont 2 points et la liste des 6 livres. Le plus tu seras spécifique possible, le plus ton objectif sera atteint. Parce qu'en fait, ce sera clair. Si les idées ne sont pas claires dans ta tête, eh bien, c'est compliqué d'atteindre des objectifs, en effet.
Oui, c'est ce que je dis souvent aux personnes avec qui je travaille, que même en termes de communication, hein, il faut avoir des objectifs bien clairs, parce que pour dire, par exemple, je veux être connue ou je veux être voilà, comment tu mesures ça pour savoir si ça a été atteint ou pas, et aussi si ça n'a pas été atteint, comment est-ce que tu peux rectifier ta stratégie pour vraiment atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans ton quotidien de mère et entrepreneur?
Ah bah moi maintenant je l'utilise tous les jours, hein. Il n'y a pas une fois où je ne l'utilise pas, que ce soit d'ordre professionnel pour organiser ma journée quand j'ai énormément de travail à faire, ou bah par exemple tout à l'heure tu sais la formation qu'on a faite ensemble, eh bien la présentation en toute transparence, oh là là je vais le dire, en fait si tu veux j'ai eu un début d'année très chargé donc j'avais pas du tout le temps de voir la présentation. Donc la présentation que tu as vue tout à l'heure, elle était sympa.
Oui, carrément.
Eh bien ça, je l'ai généré en 1 minute.
Extraordinaire.
Ouais, je l'ai généré en 1 minute avec des outils de l'IA. Voilà. Et puis pour la famille, côté famille, c'est plutôt d'un point de vue santé. En fait, si tu veux, ça remplace pas un médecin, attention. Par contre, ça peut te donner des pistes, des orientations sur des connaissances en médecine, par exemple. Mais il faut savoir parler, par exemple, à ChatGPT de manière correcte, pour que les réponses te soient adaptées. Mais oui, aujourd'hui, j'utilise tous les jours. Je ne comprends pas aujourd'hui les personnes qui perdent du temps à regarder sur Internet ou qui l'utilisent plus ou qui font des présentations PowerPoint ou qui lisent des PDF de 200 pages. Là, je comprends plus.
Ouais.
Enfin, c'est une
C'est-à-dire
perte de
qu'on a
temps.
des outils, voilà, qui nous permettent de gagner du temps. Pourquoi se priver, quoi? En plus, il y en a bon nombre qui sont gratuits
Bien sûr.
ou qui ont des versions voilà freemium, soit c'est complètement gratuit, soit c'est un peu payant et après ça devient gratuit, ça devient enfin gratuit d'une part et après ça devient payant. Voilà, il y en a pour tous les budgets.
Tous les outils d'IA sont, il y a toujours une partie gratuite en fait. Il y a juste Midjourney qui, pour la génération d'images, il y a eu des abus. Donc en fait, ils le font maintenant automatiquement payant. Mais sinon, tu as toujours, dans tous les outils d'IA, tu as une partie gratuite pour le tester, comparer. Parce que tous les jours, il sort de nouveaux plugins, par exemple, pour ChatGPT Plus, donc la version payante. L'objectif, c'est vraiment de tester et en fonction du métier que tu fais, les choisir.
Alors, la question suivante, c'est comment l'intelligence artificielle peut-elle concrètement aider les entrepreneurs et les mères entrepreneurs à gagner du temps dans leur quotidien professionnel et personnel? C'est un peu ce que tu viens de dire, en fait, finalement. Aussi bien pour faire des présentations que pour voilà, si on a des questions un peu plus spécifiques demander à ChatGPT, même si bien sûr ChatGPT peut avoir des hallucinations, donc il faut toujours aller vérifier derrière, mais ça peut déjà donner des pistes et permettre plus ou moins de gagner du temps.
Oui.
Imaginons que tu as une boule de cristal. J'aime bien parler de Madame Irma. J'en ai pas mal parlé en début d'année quand je réfléchissais aux prédictions en marketing, etc. Quelles sont les perspectives que toi tu vois se dessiner sur l'évolution de l'intelligence artificielle et comment cela pourrait influencer la charge de travail qui pèse sur les femmes entrepreneurs à l'avenir?
Bah, en fait, tout va tellement vite que tu peux pas prédire comment ça va évoluer. Tout va tellement vite. J'ai envie de dire, aujourd'hui, le conseil que je pourrais donner aux personnes entrepreneurs, femmes particulièrement pour ce podcast, c'est de s'y mettre tout de suite et maintenant. Parce que si vous ne comprenez pas comment l'utiliser, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un prompt, qu'est-ce que c'est qu'un token, qu'est-ce que c'est une clé API, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones, etc. En fait, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça aussi que dans mes formations, j'intègre totalement aujourd'hui la place de l'intelligence artificielle dans mes formations. Donc, pour gagner du temps avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes ne se rendent pas compte du gain de temps incroyable que ça peut générer les outils de l'intelligence artificielle générative, je précise. C'est-à-dire, c'est comme ChatGPT, etc. Vraiment, ça fait gagner un temps incroyable. Donc, il faut l'utiliser. C'est le meilleur investissement que les personnes peuvent faire sur elles aujourd'hui pour réussir et perdurer dans le temps.
Oui, j'avais fait un sondage sur Instagram où j'avais demandé qui ici utilise ChatGPT et il y en avait quand même un tiers qui avait répondu j'ai jamais utilisé ChatGPT. Moi, j'avais trouvé ça vraiment dommage parce qu'en fait, on prend du retard si on ne le fait pas puisque tout le monde le fait et l'outil devient de plus en plus efficace au fil des mois et en fait, on prend un, voire plusieurs trains de retard par rapport à tout ça. Et j'avais fait un petit épisode là-dessus, justement. C'était trois usages simples de ChatGPT pour mère entrepreneur débordée. Et c'était vraiment basique de chez basique. Et c'était simplement, trouver des idées de contenu pour alimenter ses réseaux sociaux, demander des idées de repas équilibrés à faire pour le menu de la semaine. Pareil pour les activités à faire avec les enfants. On peut aussi bien au niveau pro que perso demander à ChatGPT de nous filer quelques idées et ça nous permet de voir les choses peut-être auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors
C'est vrai.
je parlais d'Instagram et justement j'ai fait une petite story en disant que on allait enregistrer cet épisode et j'ai demandé aux auditrices si elles avaient des questions pour toi. Alors j'ai récolté deux questions pour toi. Enfin, une qui se divise en deux, mais voilà, et une troisième qui est intéressante. Enfin, elles sont toutes intéressantes. Je vais commencer. Déjà, je vais remercier Anguatola et Daniel pour leurs questions. Et donc, j'enchaîne directement avec les questions et ça va nous permettre de clôturer notre échange d'aujourd'hui. Arrives-tu toujours à suivre ton organisation?
Alors, c'est une question assez fréquente et j'ai envie de répondre non, puisqu'en fait, la journée, c'est composée de changements, d'imprévus, d'urgences. Donc, en fait, non. Il est normal que parfois, tu as des imprévus. Typiquement, je parlais de la journée hier où je devais arrêter de travailler à 15 heures pour, et parce que c'est ma priorité, déposer un de mes enfants à l'école. Si tu veux, si ça n'avait pas été une de mes priorités, je me serais organisée différemment. J'aurais demandé à une nounou d'aller chercher, ou alors j'aurais pu attendre, parce qu'en soi, c'était pas non plus une urgence, mais un confort pour mon enfant que d'aller avoir sa crème antibiotique. Mais non, en fait, si tu veux, tu peux pas. C'est normal, en fait. J'ai envie de dire, c'est normal de pas respecter de temps en temps. L'objectif est d'organiser au mieux ta journée, mais trop d'organisation tue l'organisation. Attention, hein, parce que trop d'organisation, ça va bloquer ta flexibilité. Et c'est pour ça que moi, dans mes recommandations, dans l'agenda, je recommande vivement de toujours ajouter un créneau d'imprévu. Donc une zone d'imprévu dans ton agenda.
Ça, c'est très intéressant. J'aurais pas forcément pensé spontanément à le faire. Et justement, ça vient. Ça, c'est la deuxième question. En fait, c'était comment t'adaptes-tu en cas d'imprévu indépendant de ta volonté? Donc, en fait, tu prévois les imprévus.
Ouais, non, quand il y a un imprévu, en fait, déjà, en fait, la première chose, un imprévu, la première chose à faire, c'est de déterminer si c'est une urgence. Les imprévus, t'en as tout le temps. Donc, si c'est juste important, voire pas du tout important, mais que tu le positionnes en urgence, ça va générer du stress, de l'appréhension, de l'anxiété. Mais si un imprévu arrive, ce qui est tous les jours, on arrive, enfin, tous les jours, il y a des imprévus. Donc, il suffit de déterminer si c'est vraiment urgent et de te dire, OK, est-ce que ça, c'est vraiment indispensable? Si je le fais, je serai contente de moi en fin de journée. Est-ce que ça va m'aider? Ça va m'avancer dans la charge de travail, dans mon quotidien personnel ou professionnel? C'est vraiment ça, je pense, déterminer si cet imprévu est urgent.
Et donc tu prévois un peu une zone tampon comme ça, un créneau de allez 30 minutes, 1 heure dans ta journée au cas où.
Alors, en fait, ça dépend de chacun. Moi, aujourd'hui, je le planifie à la semaine. Ma zone tampon, c'est un après-midi, en fait.
D'accord.
Tu vois, et je le fais le
Avec
vendredi.
les enfants, ça va assez rapidement.
Comment ça, avec les enfants?
Je veux dire, quand on appelle enfant malade ou bien
Ah oui.
ce genre d'imprévu-là, vraiment indépendant de notre volonté, quoi. C'est en ce sens-là
D'accord.
que je disais
Ouais.
ça.
Non, mais je comprends. Après, moi, j'ai la chance que mes enfants sont un peu plus grands et que du
Oui.
coup, j'ai plus trop de
Oui.
maladies nourrissons. Et ce que je comprends, si tu lances une boîte et que tu viens d'avoir des enfants, en effet, c'est compliqué parce que du coup, tu dois quand même être pas mal disponible en fonction de ton aide, hein, bien
Oui,
sûr.
carrément.
Mais aujourd'hui, là, c'est vraiment se dire une zone tampon de ta semaine. Et puis, si tu n'as aucun imprévu, aucune urgence, je parle bien d'urgence, je répète, urgence. Eh bien, bah, je fais, c'est du temps pour moi. Je vais me balader, je vais faire du sport, je vais lire, je vais dessiner. Enfin, je vais prendre un bubble tea. J'adore. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment ça. Le vrai problème aujourd'hui des personnes et femmes entrepreneurs aujourd'hui, si on peut parler du podcast, c'est que elles considèrent à chaque sollicitation, elles vont tout de suite dire oui, sans dire non, hein, voilà. Et donc, ça va les surcharger. Elles vont avoir fait seulement une partie, voire rien du tout de ce qui était prévu de la journée, alors qu'en fait, c'était pas du tout une urgence. Elles auraient même pu dire non, tout simplement, mais elles vont le faire. Tu vois? Donc, vraiment, le vrai problème aujourd'hui des imprévus, c'est déterminer si c'est une urgence, si c'est quelque chose qui va te rapprocher de ton objectif principal, oui, non. Et puis, il faut dire non, hein? Faut faire comme Warren Buffett. Eh bien, on dit non.
Ouais, il faut
OK?
apprendre à dire non, c'est pas toujours facile, mais
Ouais.
dire non aux autres, c'est aussi se dire oui à soi.
Wow! Tu pourrais faire de la formation, toi aussi.
Alors, la dernière question, je l'ai trouvée intéressante. C'était comment utiliser l'IA sans perdre son essence? J'avais pas compris, alors j'ai demandé un peu plus d'explications,
De
de
détails.
précision, voilà, pour dire d'explicitation, je sais pas si ça se dit, mais dans
D'être
tous
plus
les cas,
explicite, ouais.
voilà. Qu'est-ce que tu entends? Pourquoi tu demandes ça? Eh bien, en fait, cette personne, elle reçoit par exemple des newsletters et d'autres contenus en fait, derrière lequel elle ne reconnaît plus la personne qui a écrit. En fait, il n'y a plus d'âme. C'est en fait essence, c'est un peu la personne, la personnalité. Donc comment? Alors moi j'ai une petite idée, mais je te demande aussi à toi comment à utiliser l'IA générative comme ChatGPT par exemple pour nous aider dans notre création de contenu, mais ne pas devenir un peu des robots où tout le monde écrit la même chose, quoi.
Alors en fait, pour cela, il existe des méthodes pour accompagner ChatGPT à bien te connaître. Donc en fait, tu vas parler d'une certaine manière, tu vas lui demander un ton, tu vas lui expliquer si tu es quelqu'un qui fait des blagues ou pas, etc. Enfin, tu vas donner un maximum de détails à ChatGPT. Donc tu vas apprendre à lui parler. Donc ça, déjà, ça va aider. Ensuite, à voir qu'est-ce que tu veux en contenu ou pas. Moi, je t'avoue, tous mes contenus, c'est du ChatGPT. Quand tu vois sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est LinkedIn dans l'optique de gain de temps, en fait, on dirait pas du tout un robot. Voilà. Simplement, tout est automatisé et tous mes posts, depuis longtemps, je ne les fais qu'avec ChatGPT et automatisé. Donc, la première chose, donc tu lui parles de cette manière-ci, ou alors, en fait, aujourd'hui, il y a un débat en se disant, tout le monde utilise ChatGPT, les photos, on voit plus personne, on voit que des robots, enfin, on comprend plus rien, tout ce qui est dit sur les réseaux, c'est toujours la même chose, etc. Donc, en fait, j'ai envie de dire que les personnes que ça dérange, la première chose, en fait, bah, vous faites différemment. Faites différemment si ça vous dérange. Moi, aujourd'hui, par exemple, je sais utiliser tous les outils comme Midjourney, DALL-E, photo réalistique, etc. Cependant, bah, en fait, je mets plutôt des photos de moi, des photos de des personnes que j'accompagne, parce qu'en fait, j'ai ce côté très humain. J'aime beaucoup toujours ce côté présentiel, hein. C'est pourquoi la majorité de mes formations sont en présentiel. D'ailleurs, c'est un choix. Ça demande plus d'énergie, plus de temps, plus d'investissement, mais c'est quelque chose que j'adore. Et donc, je continue comme ça. Et pour le coup, sinon pour le contenu, eh bien peut-être que certaines personnes s'y prennent mal, je dirais, sur le contenu. Donc en fait, effectivement, si tu mets des photos de toi robotisées parce que tu es content d'utiliser DALL-E, bah forcément ça va faire un peu fake et bon, en fait tu vas même plus regarder le post. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On regarde plus du tout parce que tu vois un truc, ça donne pas envie. Donc, en fait, ça dépend vraiment des personnes. C'est moi, je le fais parce que ça me fait gagner du temps, mais c'est des photos réelles. Enfin, je les monte pas. Et bien évidemment, je relis ce que dit ChatGPT. Tu peux apporter une touche personnelle, tu vois. Tu peux lui dire si tu veux des smileys, si tu veux pas de négation, si tu veux des tutoiements. Enfin, je te donne quelques tips là dans ce podcast. Mais en fait, il faut savoir lui parler. Et en fait, il va te faire des choses vraiment sympas, tu vois.
Exactement. En fait, la question, c'est finalement comment humaniser sa communication à l'ère de l'IA. Je pense que c'est une vraie thématique. Et derrière, il y a aussi tout ce qui est éthique au niveau de l'entrepreneur finalement, et à quel point il souhaite avoir une communication authentique ou pas. Parce que si c'est juste trois clés pour et copier-coller, ben en fait, aujourd'hui, les algorithmes ne favorisent plus ça. C'est comment trois clés que toi tu appliques ou bien que tes clients appliquent, etc. Il faut rajouter une personnalisation en fait finalement, une humanisation derrière tout ça, pas faire de copier-coller, ça c'est sûr et certain. Et comme tu dis, on nourrit ChatGPT, on peut même lui faire un copier-coller d'un texte qu'on a fait et lui demander de s'inspirer du texte pour garder un peu la même ligne éditoriale et tout ça. Donc c'est un petit peu l'idée derrière tout ça. Merci
Merci
Victoria,
Lauriane.
merci pour ton temps et merci pour toutes les astuces que tu as bien voulu partager avec nous.
Bah écoute, on a bien réussi à gérer notre temps parce
Oui.
que pour la petite histoire, c'est un peu l'imprévu aujourd'hui. On a bien géré, tu vois, on a géré l'imprévu. On a vachement respecté le timing
ouais.
Et on est au top. Alors
bien.
Bravo.
Bravo et merci.
Merci, salut Lauriane.
Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, t'aura plu. Pour aider le podcast à grandir et permettre à plus de monde de le découvrir, plusieurs options s'offrent à toi. Et dans tous les cas, je te remercie d'avance. Tu peux laisser des étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute, le partager en me taguant sur les réseaux sociaux et même en transférer directement le lien à tes proches que le sujet pourrait intéresser. Si tu veux aller plus loin sur les thèmes abordés dans le podcast, inscris-toi à la newsletter sur orema.fr/newsletter et reçois le mail du lundi pour découvrir les coulisses du podcast et des astuces actionnables pour mieux communiquer. Ton inscription te donne aussi accès à la boîte à succès des mères entrepreneurs, une bibliothèque de plus de 30 ressources pour optimiser ta communication et tendre vers un meilleur équilibre vie pro-vie familiale. Enfin, rejoins-nous sur Instagram @orema-communauté pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à samedi prochain pour un nouvel épisode.